C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
La solitaire du Figaro, le Vendée Globe, la route du Rhum et autres régates ou tours du monde en équipe ou en solitaire, les Français et Françaises se passionnent pour les courses nautiques, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Dans l'histoire avec un grand I, aujourd'hui, ouvrons les livres, tirons les cartes du monde et regardons un événement qui fait figure d'ancêtre de ces compétitions, le Tour du Monde de Magellan. Pour nous éclairer nos fabuleux historiens, bonjour Alexandre Belin.
Bonjour, bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Thierry Lafleur.
Bonjour, merci.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors la première question peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler qui était ce monsieur Magellan ?
Oui, tout à fait. Alors Magellan était un Portugais, Fernand de Magellan, de son prénom, né aux alentours de 1480 à Porto. Et dès son plus jeune âge, il se prend de passion pour la voile. Son père l'inscrit à un club de voile à Porto et déjà petit, il fait de l'optimiste, donc un petit bateau, une petite coque de noix, et très vite, il se prend de passion pour la course au large.
Voilà, donc on a quelqu'un qui, dès son plus jeune âge, est passionné par la mer et par les bateaux.
Oui, et puis enfin, faut savoir qu'en fait, là où on a finalement l'histoire de Magellan, pour moi, elle commence le jour où, justement, lors de ce cours de voile, où il est en train de faire de l'optimiste, il s'écarte du groupe. Et se retrouve seul, finalement, perdu, au large, dans son optimisme. Finalement, il réussira à rentrer. Mais c'est à partir de là, pour moi, que naît vraiment Magellan.
Voilà. Alors, avant d'aller dans ce détail de cet événement fondateur, est-ce qu'on peut remettre le contexte historique ? Vous avez parlé de 480 ?
Tout à fait.
Voilà. Comment va le Portugal à cette époque ? Quelles sont les grosses problématiques du pays ?
1480, le Portugal est très riche. C'est un des pays les plus riches du monde. On n'a pas encore découvert l'Amérique, hein, on est avant 495. Fernand de Magellan naît dans une famille très riche. La course au large, c'est un loisir et un sport qui demande énormément d'argent.
Rien que les cours de voile, hein, c'est hors de prix.
Les cours de voile, c'est hors de prix.
Même aujourd'hui.
Mais à l'époque, c'était encore.
Fait de la voile, la
mais
François.
Oui.
Et...
oui, du catamaran.
Oui.
Oui, c'est cher.
C'est infernal.
Oui. Et donc, Fernand de Magellan est dans cette famille très riche, s'inscrit au club d'optimistes. Et c'était vraiment le sport à la mode. La voile à l'époque.
Des nobles en tout cas.
Des nobles en tout cas. Oui. Mais comme au Portugal, il y avait énormément de nobles et de gens fortunés, bon, la plupart du Portugal faisaient de la voile.
C'est ça qu'on estime qu'au Portugal, on avait au niveau de la répartition de la population, on avait à peu près 20% de gens non nobles. Et 80% de nobles, c'était quand même un pays de grosses noblesse. Tout le monde était riche.
C'était assez impressionnant.
Ok, donc une concentration de richesse au Portugal qui explique peut-être aussi pourquoi est-ce que ce monsieur de Magellan, on le connaît maintenant, parce qu'il était portugais et qu'il a pu du coup saisir toutes ces opportunités.
Finalement, comme dans toutes les grandes villes, et on peut faire le parallèle avec les grandes villes très riches d'aujourd'hui, au Portugal, c'était vraiment aussi la course à qui aura le plus gros bateau. Donc en fait, ce serait un peu l'équivalent de ce qu'on voit faire les fortunés aujourd'hui avec leur yacht. Mais vraiment, à l'époque, c'était pareil avec les plus grands voiliers, avec les plus grandes caravelles, etc. Donc c'était assez impressionnant.
Et donc, très jeune, Fernand de Magellan fait de la voile compétitive, fait de la course au large, et il se prend en compétition. Il se trouve un adversaire, un némésis, qui est une autre personne qui a fait l'histoire, Vasco de Gama. Et donc, il y a une rivalité. Dès l'âge de 8 ans, lorsqu'ils se retrouvent sur une course, ils sont rivaux de voile, Vasco de Gama et Fernand de Magellan. Et cette rivalité les suivra tout au long de leur vie.
Est-ce que cette rivalité, c'est quelque chose de famille ? Parce qu'on sait, dans les familles nobles, il y a toujours des guéguerres, des familles plus fortunées qu'une autre à ces moments-là. Est-ce que cet événement historique fait partie de ce genre de cette part de l'histoire en fait qui est impliquée par les plus fortunés.
Alors rien à voir avec les deux familles avec les fortunes respectives des deux Gama et des deux Magellan. C'est juste que lors d'une course de bateau, Vasco de Gama est passé devant la petite bicoque de Fernando Magellan et il a fait tomber dans l'eau et lui aurait dit boule nulle.
Boule nulle.
Boule nulle.
C'est d'ailleurs boule nulle, c'était quelque chose qui s'était inscrit sur la longue vue de Magellan. Il l'avait fait graver justement parce que ces mots résonnaient en fait à chaque fois et il a passé toute sa vie finalement à prouver que non, pas boue, je ne suis pas nul.
Mais d'ailleurs, ça le suit longtemps parce que donc il a eu par la suite beaucoup de succès, mais dès le moment où cet événement se passe quand il avait 8 ans jusqu'à ses 16 ans, donc il a continué la course et c'était son activité principale, mais il avait peu de succès et les gens se moquaient de lui parce qu'il terminait toujours derrière Vasco de Gama. Vasco de Gama terminait toujours premier et à chaque fois. Lors de l'annonce du résultat de Magellan, tout le monde scandait « Bouh, le nul ! Bouh, le nul !»
En portugais, évidemment.
En portugais.
Qui veut qu'on traduit par « Oi, o perdedor !»«
Oi, o perdedor !» Et mon portugais est moins bon que celui de Robelin.
Très bien votre portugais. Attendez, très bien votre portugais, c'est ridicule.
Tout le monde sait que j'ai l'italien, vous avez le portugais. Il n'y a pas besoin de fausse modestie, Alexandre.
Non. Bah, si vous voulez, allez, on coupe la poire en deux.
Et donc voilà, il vit avec cette rancœur et c'est vraiment cette hargne qu'il habite, qui lui a été insufflée par Vasco de Gama. Et à 16 ans, enfin, il bat pour la première fois Vasco de Gama dans une course de Hobie 4-16.
Voilà, donc là on arrive à cet événement déclencheur, on va dire, à 16 ans, là, cette première course où Magellan arrive premier, je comprends bien ce que vous racontez. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur cette course? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle est décisive, celle-ci, et pas une autre?
Elle est décisive dans le mauvais sens pour Magellan, si je puis dire, parce que en effet, il bat Vasco de Gama.
Il faut mettre le contexte. On part de Porto pour arriver à Brest.
Oui.
Après, on va jusqu'à
Portsmouth en Angleterre.
On va jusqu'à Portsmouth en Angleterre. Une fois qu'on est à Portsmouth en Angleterre, là, on se laisse porter par les courants, vers le haut de l'Europe. On arrive à
Reykjavik, capitale de l'Islande.
Reykjavik, la capitale de l'Islande. Ensuite, on fait trois fois le tour de l'Islande. C'est là où c'est la partie la plus complexe souvent. Et on revient d'une traite après à Porto.
Et en fait, là où la course finalement s'avère être presque tragique pour Magellan, c'est que Magellan fait une superbe course, incroyable. Vraiment, il a tous les vents avec lui. Vasco de Gama, après Brest, se plante totalement. C'est-à-dire qu'il se plante totalement, il rate totalement le coche de Portsmouth. Mais par la même occasion, c'est à ce moment-là que Vasco de Gama découvre l'Irlande. Et finalement, il va rentrer au pays avec cette découverte qui change la face de l'Europe. Et finalement, la victoire de Magellan est totalement éclipsée.
Totalement.
Totalement éclipsée. Et pourtant, c'était des conditions... Vous n'imaginez pas la course que ça a été. Donc, il y avait une tempête féroce, vent de force 8 sur l'échelle de Beaufort tous les jours, des vagues de plus de 3 mètres de haut. Il fallait être un héros pour réussir à faire trois fois le tour de l'Islande. D'ailleurs... Les trois quarts des participants qui sont passés de Portsmouth à Reykjavik et qui ont fait le tour de l'Islande sont morts. Leurs bateaux se sont coulés. Et Vasco de Gama a réchappé à cette difficulté parce qu'il a découvert l'Irlande et il a été ensuite érigé en héros. Mais là, Fernando Magellan a quand même fait quelque chose de formidable en réussissant déjà à terminer la course malgré les conditions.
Et donc, effectivement, il termine la course avec un temps record. Et le problème, c'est que effectivement, c'est comme vous l'aviez dit Thierry, cette victoire se fait totalement occulter par la découverte de l'Irlande par Vasco de Gama. Et c'est là que Magellan fait une grossière erreur dans sa carrière, c'est que il fait une erreur de gros bébé. Moi aussi, j'ai découvert quelque chose, et il dit qu'il a découvert une nouvelle terre qui s'avère être en fait.
Il n'avait rien.
Il a dit moi aussi j'ai. Il était sur la première marche du podium. Vasco de Gama annonce ça. Il dit attendez, moi aussi j'ai découvert un truc.
Et là,
on lui demande.
Le public lui demande quoi ?
Qu'as-tu découvert ?
Fernand.
Et il dit il faut le voir pour le croire.
Et c'est là que tout le public se met à scander tous ensemble à l'unisson.
Montre-nous.
Oi, o perdedor.
Oi, o perdedor. Donc, o le nul, parce qu'on ne le croit pas. Mais Magellan veut leur montrer. Il leur dit attendez, je vais vous montrer. Et donc le public dit on veut voir. Et c'est là que Magellan part
pour son tour du monde.
Pour son tour du monde.
Et sur ces notes de suspense, on revient juste après la pause musicale.
J'dois me vider la tête, sans vider la tête. J'dois quitter la team, terminer la quête. J'dois viser le top, pas baisser la tête. Et vivre mes idées, et vivre mes rêves. J'ai visé la lune et j'suis parti de rien. Des fois j'pensais que j'étais fait comme un rat. La monnaie d'abord reste, on s'en bat les reins. Mais j'suis pas à l'aise devant les caméras. Attendre les sommes et monter les sommes. J'suis sur la scène et ma voix résonne. J'suis pas comme eux, moi j'suis pas les autres. Ouais, j'hallucine et ça me désole. Tu fais du cinéma, mais bon, décidément, j'fais pas la musique facile que font ces humains. Moi j'ai un univers, un dessin animé. Force à ceux qui sont là depuis la saison 1.
Faire la moula puis se barrer.
Tour du monde, c'est moi contre moi-même dans ce combat, dans ce combat. Des fois j'y repense à chaque seconde, chaque seconde. Je voulais me barrer faire le tour du monde, tour du monde. Je voulais me barrer faire le tour du monde, tour du monde. C'est moi contre moi-même dans ce combat, dans ce combat. Des fois j'y repense à chaque seconde, chaque seconde. Je voulais me barrer faire le tour du monde, tour du monde. Je pense à la presse, je pense à la scène, je pense à l'autre, je me refais la scène. Je me disais c'est faux, mais tout était vrai. J'ai six points de fond, j'ai roulé un terre. J'ai cherché la vérité, tout était là. J'ai vu que la vie c'était pas marrant. Ça fait longtemps qu'on est plus sur le terrain. J'ai tout oublié comme quand j'étais sous l'un. Je dois toucher le sol et quitte à me brûler. Changer de zone et ranger la plume. Dis pas que tu connais, ni que t'es fan ou que t'es abonné. Gros j'ai la flemme. Concert ici et là, ouais j'ai tout visité. Ils oublient de bosser, écriture et mélo. Non c'est pas similaire, non c'est pas similaire. Et d'après les rumeurs, quand c'est moi c'est meilleur.
Faire la moula plus barré.
Tour du monde, c'est moi contre moi-même dans ce combat, dans ce combat. Des fois j'y repense à chaque seconde, chaque seconde. Je voulais me barrer faire le tour du monde, tour du monde. Je voulais me barrer faire le tour du monde, tour du monde. C'est moi contre moi-même dans ce combat, dans ce combat. Des fois j'y repense à chaque seconde, chaque seconde. Je voulais me barrer faire le tour du monde, tour du monde.
Et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I. C'était Youfdi avec Tour du Monde, un peu de rap dans l'histoire avec un grand I. Ça n'arrive pas si souvent. On se quittait sur un suspense énorme. Magellan qui va partir pour son premier tour du monde après avoir vendu au public qui l'accueille après la première régate dont il est sorti vainqueur, la découverte de quelque chose, mais sans dire quoi.
Et oui, et en fait, donc, il ne part pas vraiment pour son tour du monde. Lorsqu'il part, il part avec un équipage justement pour prouver, pour montrer cette nouvelle terre que lui appelle la Terre Magique. Et donc, il part avec un équipage pour la Terre Magique. Et, mais à aucun moment, il pense faire un tour du monde. Finalement, le tour du monde, il le fera un peu par hasard.
Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'avait aucune... Enfin, il a annoncé ça, mais évidemment, il ne savait pas s'il y avait une terre à découvrir dehors. Donc, il partait jusqu'à qu'il découvre quelque chose pour arrêter d'être ridiculisé. Donc, effectivement, il part avec un équipage de 4 navires. Il prend un contre-maître. Il prend tous les sextants qu'il a à disposition. Et il part pour son tour du monde un peu à l'aveuglette, quoi.
Et ce qui est fou, c'est qu'on a retrouvé les carnets de bord de Magellan. C'est le poids du mensonge.
Ah oui.
Parce que c'était le seul à savoir que tout son équipage était persuadé qu'il
y avait la Terre Magique.
Et que Magellan savait où il allait.
Comment est-ce que Magellan récolte les fonds nécessaires pour une telle expédition ?
Il les a.
Il les a.
Il est riche.
Il les a. Extrêmement riche. Il n'y a aucun effort à faire de ce côté-là.
Okay, c'était plutôt pratique.
Tout à fait.
Mais en fait, le vrai problème avec Magellan, c'est que déjà, Déjà, le peuple portugais est suspicieux. On se dit, mais la terre magique, voilà.
Est-ce que le gros nul a vraiment découvert une terre magique ?
Alors que Vasco da Gama avait ramené avec lui des Irlandais pour montrer, regardez, j'ai découvert l'Irlande, regardez, voilà un Irlandais. Là, au moins, on avait des preuves. Tandis que là, Magellan n'avait rien. Et là où vraiment le discrédit est total, Magellan n'en sera rien avant son retour, c'est qu'au moment où il quitte le port, il fait route vers le sud, alors que a priori, il avait découvert cette terre pendant la course, donc ça aurait été plutôt au nord. Et il part directement vers le sud, mais en fait, Magellan ne réfléchit pas à ce moment-là. Il se dit juste, je vais prendre la route habituelle, cap de Bonne-Espérance, partir vers les îles Mariannes. Et... Grosse erreur.
Et c'est là où déjà quasiment l'entièreté de son équipage remarque évidemment, hein, il est avec des navigateurs chevronnés, remarque qu'ils ne partent pas dans la bonne direction a priori, et il y a des rumeurs qui commencent dès le jour 1 à courir à bord.
Jour 2, il perd un bateau, il y a un bateau qui fait demi-tour, qui se dit, allez, c'est bon.
Se dit mais non,
allez,
la terre est
allez,
au nord.
Allez, c'est bon, allez, on en a marre, on va pas suivre le gros nul, allez, c'est bon, on rentre à la maison, c'est fini les bêtises, allez hop.
Ok, donc dès le début, vraiment un gros problème pour tenir son équipage derrière lui. Comment est-ce que se déroule le tour du monde après ce premier abandon? Est-ce que ça s'améliore?
Ah non, à aucun moment.
C'est horrible.
Alors, on va avancer un peu, mais ça a duré 10 ans. C'était 10 ans de souffrance pour Magellan. Des mutineries, à ne plus savoir quoi en faire. Si bien qu'à la fin, il a dû remplacer membre d'équipage par membre d'équipage d'habitants des îles qu'il trouvait, parce que les Portugais se moquaient de lui en permanence. Et ça se voit dans son carnet. Hein. En permanence, on voit. Donc lui, il a le poids du mensonge, mais aussi le poids de son équipage qui, derrière, dit allez hop, encore le gros nul qui nous fait prendre le cap de Bonne-Espérance, c'est n'importe quoi, on connaît tout ce qu'il y a là-bas.
D'ailleurs, le 15 août 1517, Magellan est abandonné sur une île par le.
1587,
Magellan reste 107 ans. Magellan a 37 ans et il est abandonné après les 4 premières années de navigation sur l'île aux îles Féroé. Il est abandonné aux îles Féroé par son équipage. Il n'avait plus qu'un bateau. Il y avait combien de bateaux à l'origine ?
4 à la base. Enfin, 3 dès le jour 2. Hein.
Voilà. Donc, le dernier bateau décide de l'abandonner sur une île. Il rentre au Portugal. Et Magellan est obligé donc de convaincre les habitants des îles Féroé de repartir avec lui pour leur promettre la terre magique. Donc il reste à peu près aux îles Féroé pendant un an, le temps de convaincre la population.
Oui, il était très peu charismatique, il avait très peu de charisme, hein, et c'est pour ça que tout le monde se moquait de lui. Et donc déjà aux îles Féroé, quand il est arrivé, il a glissé sur un poisson, il est tombé dans un baril de poisson. Les gens l'appelaient l'homme poisson.
Par contre, je suis désolé, je vous entends dire, c'était pas les îles Féroé, c'était les îles Féroère.
Les îles Féroé appartiennent à l'Islande. Oui, bien sûr.
Les îles Féroé, on est dans le Pacifique.
Oui, pardon, j'ai dit Féroé.
Oui, moi aussi j'ai repris Féroé. Non, écoutez. Et donc voilà, on l'appelait l'homme poisson sur les îles Féroé. Donc voilà, ça lui a collé à la peau pendant longtemps. Et je parle pas de l'odeur, hein, je parle bien de la réputation. Et finalement, il finit par les payer grassement parce qu'il avait quand même énormément d'argent. Donc il dit bon, voilà, je vous promets un salaire mirobolant, mais vous m'aidez à terminer mon tour du monde et à découvrir la terre magique.
Alors justement, là, c'est 10 ans, on va dire, de souffrance ultime. Vraiment, partir pour 10 ans avec un équipage qui ne nous suit pas, ça va être extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on en a fait des films, des livres, des tableaux. Je vous propose qu'on écoute un extrait de film qu'on pourra commenter juste après.
T'y crois, ça ? T'y crois ou pas ? Je te jure, il me l'a dit.
Franchement, je suis prêt à tout entendre maintenant.
Elle n'existe pas, cette terre, c'est n'importe quoi.
Putain, le love là.
Hey, salut.
Salut, Fernand.
Bonjour, Fernand.
Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas ?
Si, non, on a.
Ah, ça va.
On a reçu un courrier.
C'est-à-dire quoi ?
Bah là, regarde.
C'est mon oncle qui me dit que la terre magique n'existe pas et qu'on racontait les cracks depuis le début.
Non, c'est des conneries là. Écoutez pas le torchon qui vient de Porto là. C'est n'importe quoi, les gars. La terre magique existe. Je vous l'ai prouvé à de nombreuses reprises.
Regardez la
cicatrice là que j'ai sur les côtes là.
Oui, on voit. Alors, baissez vos t-shirts,
Mais si, mais c'est un ours de 4 mètres de haut qui me l'a fait. Sur les îles magiques, tout est plus grand. Allez, les gars, qu'est-ce qu'il y a ?
Mais regarde ! Là-bas ! Attends, passe-moi ta longue vue.
Hé, Magellan !
Oh !
Magellan !
C'est Vasco de Gama.
C'est le navire de Vasco.
Oui. Vasco, ouais. C'est le Diable Rouge.
Il vous traite de nul.
Il vous traite de gros nul.
Fernand, il vous traite de
Fernand,
gros nul.
Il vous traite de...
Et où est Intermagique, Magellan?
Son bateau va vraiment beaucoup plus vite que le nôtre. Oh,
vous pensez qu'on peut avoir un autographe ou pas?
Fernand, est-ce qu'on peut faire cap vers le navire de Vasco de Gama?
Est-ce qu'on peut s'arrêter et lui dire bonjour à Vasco de Gama?
J'aimerais bien un autographe. On fait pas cap vers le... Non, on continue notre route là, c'est ridicule. Allez, c'est ridicule là, arrêtez de le regarder.
Vous pleurez, Fernand?
Non, je pleure pas, évidemment je pleure pas.
Voilà, on voit là vraiment une dissonance énorme dans l'équipe où Magellan se retrouve complètement isolé.
Ah oui, non mais d'autant plus que Magellan ne le sait pas à ce moment-là, mais le premier navire qui a fait route au nord assez rapidement vient de découvrir le Groenland à ce moment-là. Et donc ce navire finalement découvre une terre et c'est terrible. C'est terrible. On en rigole,
mais
aujourd'hui.
Oui,
mais
c'est le coup du sort qui
de Magellan,
sans Magellan
est tragique et d'un tragique. C'est terrible.
Ah, c'est une bonne vague. Donc finalement, pour revenir à ça, donc Magellan avait a traversé l'enfer avec ses premiers équipages, mais aussi avec le second, les îles Féroé. Les gens, c'est pas détendre. Faut pas leur faire passer un mouton pour un veau. On n'est pas là pour rigoler. Donc il repart avec ce bateau de fortune, avec cet équipage qui n'a pas beaucoup confiance dans l'homme poisson. Et là, 6 ans encore de grosses galères. Enfin, 5 ans de grosses galères.
Et en fait, le truc, c'est que plus loin des îles Féroé, donc ils font escale aux îles Mariannes, les îles Mariannes qui sont en fait le bout du bout, normalement. Et Magellan, têtu comme il est, et surtout qui ne veut pas rentrer à la maison, dit ben, on continue.
C'est ça, ça c'est intéressant.
On continue.
Magellan ne veut plus rentrer à la maison.
Oui.
Il est terrifié à l'idée de rentrer au Portugal et de se prendre les risées. De se prendre des colibets de la part de tous les Portugais.
Sa famille l'a déshérité. Hein.
Sa famille l'a déshérité, la famille. Il le sait, parce qu'ils reçoivent des lettres sur le bateau. Il n'a pas du tout envie de rentrer au Portugal.
Et du coup, il décide de continuer, alors que pour lui, il n'y a rien après. C'est-à-dire que l'Amérique n'a pas encore été découverte. Et du coup, il ne sait pas qu'il est sur le point, justement, de faire cette découverte qu'il n'espérait plus. Et il arrive au niveau du Cap Horn, en Amérique, une terre qui n'est sur aucune carte.
Et oui, le 16 août 1523,
exactement.
Magellan arrive en Amérique.
Et finalement, donc, là, on peut passer rapidement, parce que c'est la suite qui est intéressante, c'est-à-dire que Magellan donc, passe le Cap Horn, grosse prouesse technique de navigateur,
grosse
mine de rien.
Il ramène quand même des preuves cette fois, parce que là, il ne se laisse pas avoir. Hein.
Ah oui, alors, tout
là,
à fait.
Il ramène un Amérindien.
Et un pingouin.
Et donc il toujours pas où il va.
Le problème, c'est que du coup, il se repère à peu près. Il remonte vers le nord en espérant. Donc finalement, il aperçoit les îles Canaries. Il arrive au Portugal. Et c'est là qu'est toute la comédie et la tragédie de la vie de Magellan.
C'est
qu'au moment où il arrive au Portugal, avec cette découverte incroyable qu'est l'Amérique du Sud, finalement, il arrive trop tard.
Et oui, le jour où il arrive,
Christophe Colomb est là déjà depuis... 3 ans.
Depuis 3 ans.
3-4 ans, oui, je crois.
Et donc, il demande une audience au roi du Portugal, il ne repasse même pas par Porto, par chez lui, pas voir sa famille. Il dit, j'ai découvert l'Amérique, il rentre dans le palais, dans le palais
honte,
du roi.
Et
vraiment,
la
grosse honte.
Il faut s'imaginer, le palais du roi du Portugal, c'est quelque chose de grandiose. Et on ne rentre pas comme ça par hasard. Donc, il pousse tous les gardes, il dit, attention, j'ai fait la plus grande découverte du monde. Le gros nul, qu'est-ce qu'il nous... Et donc, il se dit... Non mais attendez, vous êtes un gros nul, vous n'avez pas passé. Si, laissez-moi passer, je suis Magellan, j'ai fait la plus grande découverte du monde, regardez.
Le roi finalement se lève de son trône et dit, laissez passer le gros nul.
Et il fait quoi encore Magellan? Parce que c'est pas la première fois que Magellan demande une audience au roi, ça. Et il rentre dans la salle du trône, il face au roi et il lui dit, j'ai découvert l'Amérique. Et là tout le monde rigole.
Tout le monde rigole et Magellan ne le sait pas. Magellan a couru, il est descendu de son bateau, il ne sait pas en fait que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est terrible pour lui. C'est terrible.
Dans le film, l'extrait de film que vous venez de nous passer, La risée de Magellan, donc la fin du film est terrible. Au moment où, justement, Magellan rentre, j'ai découvert l'Amérique, et on entend juste...
Et Christophe Colomb.
Christophe Colomb qui rentre dans l'ombre en applaudissant et en riant, et qui dit gros nul Magellan.
Christophe Colomb qui est le petit-neveu de Vasco de Gama, si ce n'est pour ajouter à son drame.
Ouais, ça, c'est terrible. Et donc là, il se rend compte, en voyant le pingouin de Christophe Colomb, que Christophe Colomb a bien découvert l'Amérique avant lui, qu'il n'est pas du tout un héros, qu'il est effectivement un gros nul. Et donc là, une honte sans nom, et puis toute cette souffrance accumulée au fil des années, d'ailleurs, Magellan sort en pleurant du palais.
Et c'est pour ça que le film, je sais pas, moi je l'ai jamais regardé jusqu'au bout, parce que c'est vrai que le film...
Vous avez du mal à finir les films, hein, vous.
Bah non, mais le film...
Ah, il est dur, celui-là, il est dur.
Le film La Risée de Magellan se termine par un quart d'heure de pleurs. C'est un quart d'heure de pleurs de Magellan. On le voit, il traverse les rues du Portugal.
Oui.
Il se rend à sa maison, la porte est fermée, les parents ne veulent plus le laisser rentrer. C'est un quart d'heure de pleurs. Il finit finalement par se poser sur le port, là où son bateau est déjà reparti.
Oui, les habitants des îles Ferreur sont repartis direct. Ils n'ont pas attendu grand-chose. Hein.
Non, il ne l'aimait pas beaucoup.
Il leur a demandé
payer.
De le payer,
ouais.
Il les a payés,
ouais.
Ils sont repartis direct.
Tout de suite.
Et ils sont repartis. Bon, ça c'est vrai que c'est un moment un peu émouvant, ça, je regarde. Ils repartent en fait avec le pingouin avec qui, avec qui Magellan s'était bien lié d'amitié finalement. Ouais. C'était finalement peut-être son seul ami.
Et là, Magellan se dit, bon, il se pose, il fait le point sur sa vie. Je suis le gros nul, je suis la risée du Portugal et de peut-être la planète entière. Il prend un optimiste et il part. Il repart dans l'Atlantique et il file vers l'Amérique. Il se dit, une terre neuve, peut-être qu'il y a une vie pour moi là-bas. Et il arrive sur une île et il se dit, bon, bah, peut-être que c'est pour moi cet endroit. Il s'arrête, il devient ami avec les locaux et il passera le reste de sa vie sur cette île qui est Cuba. Ce qu'il ne sait pas, et ce qui est lié très ironique avec le prisme qu'on en a aujourd'hui dans l'histoire, c'est que c'était le premier contact avec l'île de Cuba. Et donc il venait de découvrir pour la première fois, en premier, une île. L'île de Cuba, mais personne ne l'a jamais su avant bien, bien plus tard.
Oui, ça a été posthume. La découverte de Cuba a été attribuée à Magellan.
Donc Magellan était bel et bien un explorateur, et c'est pour ça qu'on le connaît aujourd'hui en histoire. C'est pas juste le gros nul, c'est l'homme qui a découvert Cuba.
Premier à franchir le Cap Horn, c'était...
Mais il a toujours été, à son époque, il a toujours été connu comme le gros nul, El Perdidor.
Le gros nul, le destin tragique de Magellan, ce sera le mot de la fin. Merci à notre équipe d'historiens, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré au tour du monde de Magellan. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine, nous étudierons un nouveau fait historique.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.